Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, là, alors que c'est un petit vendredi tranquille.
Ouais, mais il y en a une qui a ramassé le monde entier. C'est la première nouvelle, peu importe le média sur Terre que tu regardes présentement.
Voilà, éclipse médiatique, comme on dit Mario. Kate Middleton, la princesse Catherine. On a enfin des nouvelles d'elle. Je rappelle quand même que dans les derniers mois, c'était des spéculations un peu partout sur son état de santé. On savait qu'elle s'était fait opérer au ventre, à l'abdomen, par exemple. Mais depuis, là, des espèces de photos retouchées qui avaient été diffusées avaient affolé vraiment là, des gens du monde entier.
Au moment de son opération, elle avait quand même annoncé une longue période de récupération. Elle s'était donnée jusqu'après Pâques. Elle se fait opérer en janvier, ben, jusqu'en avril. Oubliez-moi pour les activités publiques.
Mais voilà qu'elle vient d'annoncer que durant cette opération-là, ben, on s'est rendu compte qu'elle aurait un cancer et a commencé des traitements de chimiothérapie depuis ce temps-là pour être capable de le guérir. Donc, dans une vidéo là, qu'elle a publiée aujourd'hui, ben, a dévoilé véritablement là, quels étaient les ennuis de santé dont elle souffrait. Et là, on se comprend. On précise pas de quel cancer il s'agit, mais on est dans la région abdominale, Mario. Là, après ça...
Ouais. Ben, cancer féminin, système digestif, les principaux cancers. Mais on voit l'image quand même... Je veux dire, on la sent quand même amaigrie, le teint assez pâle, assez blême. Elle fait, je veux dire, correct, mais fait pas pétante de santé, mettons. Là, tu vois qu'elle a eu ça dur au cours des dernières semaines.
Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs qu'elle ait décidé de retoucher des photos là, où elle apparaissait avec des enfants. Évidemment, ce n'est que des spéculations à ce point-ci. Mais bon, là, l'annonce, cette fois-ci, transparente de son cancer, permet de faire taire aussi des rumeurs, Mario. Hein? La machine à potins, rumeurs, théorie du complot même, c'est affolé là, dans des dernières semaines depuis ce temps-là. Et donc,
Elle demande de respecter sa vie privée. Je pense que pour une partie, je veux dire, il y a au Royaume-Uni des tabloïdes dont c'est le pain puis le beurre. Là, de parler de la famille royale.
Donc,
ils vont parler juste de ça. Je pense qu'ils vont en parler plus respectueusement. La machine à rumeurs va se calmer parce que là, on a quelque chose de vrai, d'authentique. Elle est sur un banc, elle donne leur juste sur ce qui se passe. Je pense que ça va calmer la machine à rumeurs folle. Mais je pense pas que le respect de vivre ça de façon privée, c'est possible pour la famille royale.
Ouais, surtout que Kate, c'est une des femmes les plus photographiées de la planète là, au grand complet. Il y a toujours des paparazzis, des gens qui la suivent. Oui, c'est sûr, on souhaite qu'elle puisse avoir là, sa vie privée pour être capable de combattre un cancer comme ça avec sa chimiothérapie. Elle a dit que ça va bien au début du traitement, puis sa santé elle va bien, elle est bien suivie aussi là, dans ce cadre-là. Mais c'est certain, comme tu le dis, là, que la machine à rumeurs est
folle. Royal, ça veut dire qu'essentiellement, si j'essayais tantôt de refaire les événements, on a su en février que le prince Charles était atteint d'un cancer lui-même.
Oui.
Elle a dit, je pense qu'on lui a enlevé une masse, puis après ça, c'est à l'analyse médicale de la masse qu'on a découvert que c'était cancéreux. C'est probablement passé, ça a été opéré fin janvier, quelque part dans le mois de février. C'est-à-dire que dans le mois de février qui vient de se passer, la famille royale a probablement eu deux fois la nouvelle d'un cancer dans la famille. Là.
Exactement. Puis pour William, ça devient son père et son épouse, là, les deux qui ont un cancer en même temps, qui doivent le combattre. Donc effectivement, c'est des grosses nouvelles là, pour la famille royale. Puis tu parlais des gens qui respectent pas la vie privée. Je rappelle que dans les derniers jours, on a appris qu'il y a des gens qui ont été arrêtés au Royaume-Uni parce qu'ils ont essayé de consulter dans une clinique médicale son dossier médical. C'est à ce point-là que les gens sont fous autour de la famille royale là, puis veulent tout savoir exactement ce qui se passe. Je pense que c'est un bon...
Mais probablement qu'un employé d'hôpital qui aurait réussi à craquer le système informatique puis avoir les renseignements médicaux aurait probablement pu vendre ça à cachette à un journal, à un tabloïd pour une fortune, là.
Oui, ouais, on se comprend. Là. Ça vaut une fortune, cette information-là, dans les mains de certaines personnes. Ouais, bien que c'est abject, ben, c'est ça, abject ça, ça a toujours fait partie.
C'est l'argent. Là. C'est certain que la personne avait un dessein financier, là, une volonté de faire une petite passe de cash avec ça.
Voilà. Et là, ben, comme tu le dis, une nouvelle qui a fait le tour du monde, des dirigeants du monde entier qui ont souhaité les meilleurs vœux de rétablissement à Kate. Puis il y a même la médecin en chef du Royaume-Uni là, qui a pris la parole pour dire, regardez, c'est courageux de faire une sortie comme ça. On sait que c'est une femme publique, elle va être bien traité, bien suivi, mais quand même là, de faire toute la lumière sur cette histoire-là, ça va calmer un peu les choses. Bon rétablissement, bien évidemment, là, à Kate Middleton.
Actualité.
On va revenir en politique québécoise, municipale, mais pas en ce moment au Canada, ni même au Québec, Mario. On s'en va jusqu'à Boston, parce que c'est là que se trouve le maire Bruno Marchand, le maire de Québec, en ce moment, qui est en mission délégation jusqu'à là-bas.
Qui avait annoncé il y a deux jours qu'il s'en allait là, notamment pour rencontrer aujourd'hui la mairesse de Boston.
Exactement, sauf que, ben, il s'est fait poser un lapin, Mario.
Voyons donc.
Tu sais, quand t'as une date, t'as hâte, c'est le fun, tu te prépares, tu te mets beau, tu te parfumes.
Un maire qui va dans un autre hôtel de ville, s'en va rencontrer le maire ou la mairesse.
Ouais, c'est plate en maudit quand le maire ou la mairesse en question n'est pas là. Puis c'est le cas en ce moment. Alors que la mairesse, là, Michelle Wu, devait le rencontrer, ben, semble-t-il qu'il y a deux urgences. Là. On parle d'une urgence liée à l'immigration, entre autres, mais qui a nécessité qu'elle s'absente et qu'elle rate son rendez-vous avec M. Marchand, qui a rencontré trois conseillers municipaux de Boston, deux parfaitement francophones, nous dit-on aussi, Mario, de surcroît. Mais quand même, quand tu vas pour rencontrer la mairesse, pis c'est ta mission, ta délégation, tu
non,
te fais...
Je veux pas être plate, là, mais mettons que tu rencontres pas le premier ministre à quelque part, tu rencontres des ministres, bon, mais au moins dans leur champ d'expertise, c'est pas le ministre de l'économie ou le ministre des finances, ou tu sais, c'est quelqu'un... Dans son champ, il y a une juridiction, là, un pouvoir... Conseiller municipal, là, on se fera pas d'illusions, là. Tu sais, oui, il y a un vote au conseil, oui, il peut être au comité exécutif responsable de quelque chose... Mais dans une ville, c'est le maire ou la mairesse, là.
Ouais.
Dans une ville, il n'y a rien qu'un boss, là. C'est le maire ou la mairesse. Si tu vas à Boston, si tu vas à l'hôtel de ville de Boston, c'est pour rencontrer la mairesse. Donc, Et moi, les gens de Québec sont tellement fiers. Je suis convaincu de ça. Parce que, bon, Boston, c'est une ville plus grosse que Québec, OK. Ouais. Mais Québec, c'est pas une petite ville. À l'échelle du continent nord-américain, Québec est une grande ville. Donc, que leur maire aille rencontrer des conseillers municipaux, je pense pas que les gens de Québec vont trouver ça bon du tout. Je pense pas que ça va... D'autant plus que le maire Marchand n'arrache déjà avec ses projets, puis t'sais, son étoile a pâli un peu. Là. Il reste respecté, mais t'sais, il est plus au niveau d'appréciation qu'il était dans sa première année de mandat. Je sais pas, j'ai l'impression que celle-là, elle va passer mal à Québec.
Là, t'es en train de me dire, Mario, là, qu'en moins de 24 heures, on a droit à deux trahisons majeures à Boston, là. Deux en même temps.
Ah ben
on a
oui.
Ça. Puis hier soir, qui est allé lire l'alignement des Bruins de Boston en plein milieu de leur vestiaire? Hey, Céline! Mario, Céline Dion ben oui, qui est allé lire ça dans le vestiaire des Bruins.
C'est gars aiment le hockey. Les Bruins de Boston, c'est une institution, une des six équipes originales.
C'est quand même de l'hérésie, là. Mario, je peux pas croire. Les Bruins, Céline, qu'est-ce que tu nous fais, Céline? Le maire Marchand se fait sacrer dans poubelle puis se fait plaquer un lapin par la mairesse. Puis en plus, ben là, Céline s'en va aider les Bruins.
J'espère que le maire Marchand s'est au moins booké un rendez-vous avec Céline, faire signer un autographe par Céline, minimalement.
Mais minimalement, Mario, j'ose espérer.
Oui, ouais, on la voit, les gens qui nous regardent à la télé, elle a même annoncé l'alignement partant là, du oui. match à la place de l'entraîneur.
Ben oui, elle a dit « Pasta, you make me hungry » en parlant de Pasternak.
Pasternak, oui.
Dont le nom ressemble aux pâtes. Ah, oh, Céline, qu'est-ce que tu nous fais, Céline?
Vous avez taillé les Bruins?
Un peu moins que les Maple Leafs, mais beaucoup, oui. Tu vois, il n'y a pas grand-chose, moi, qui me rend plus heureux dans la vie, puis tu pourras en parler avec Jean-François tantôt, mais de savoir que là, le printemps va arriver, les séries d'hockey vont commencer... Puis les Maple Leafs de Toronto vont perdre au premier tour. Je t'en annonce tout de suite, là, ils vont perdre. Puis
peut-être
je vais...
pas. C'est fini, c'était de l'ancienne époque, non?
Pendant deux semaines de temps, je vais lire tous les journaux de Toronto pour me repaître de leurs larmes. Mario, je peux te le jurer, je bois bon. Ça, c'est mon breuvage préféré.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Bon, trêve de plaisanterie. Dans les nouvelles plus sérieuses, on a eu droit à une arrestation aujourd'hui qui a fait le grand bonheur de quelqu'un particulièrement connu. C'est Alexandre Champagne qui a dit, dans les dernières semaines, je rappelle, annoncé que son père avait été agressé sur une rame de métro à la station Jean Talon. Son père de 67 ans qui...
Par deux gars beaucoup plus jeunes et plus gros que lui.
Voilà. Et là, ben aujourd'hui, annonce de l'arrestation d'un des deux hommes là, qui aurait été retrouvé par le service de police de la ville de Montréal. On confirme un homme de 42 ans en situation d'itinérance, Mario, qui souffre de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Là. Ça faisait partie des hypothèses, ou du moins ce qui était énuméré depuis un petit moment quand on parlait de sécurité dans le métro.
Et je comprends que l'homme était recherché pour d'autres crimes.
Oui, exactement. Il s'en serait à son troisième méfait depuis le mois de janvier. Hein, on fait trois fois des méfaits qu'il commet comme ça. Il était recherché par les autorités en plus depuis 2020. Donc, est-ce que ça va devenir un autre cas de... Pourquoi, diable, ce gars-là était-il en liberté en ce moment?
Puis ça va devenir aussi un autre questionnement, c'est si le gars avait pas eu le malheur d'attaquer le père d'une personnalité connue qui a la chance d'avoir un gros porte-voix, là, qui, à travers les réseaux sociaux, alerte l'opinion publique, grossit l'histoire, peut-être qu'il ne se serait rien passé puis que le gars n'aurait fait un quatrième la semaine prochaine, là.
Oui, surtout que dans le cas du père d'Alexandre Champagne, on dit que le monsieur de 67 ans, après ça a été fait passer à tabac, là, ses lunettes brisées et tout, par l'homme en question, il n'y a personne qui l'a aidé. Tout le monde a marché à côté comme si de rien n'était. Un homme ensanglanté au sol, puis tout, désensibilisé au possible. Mario?
Tout le monde continue son chemin.
Oui, tout le monde sur son sel. Ils vont peut-être l'enjamber pour être sûr de ne pas mettre du sang sur leur soulier, puis ils vont continuer. Non, vraiment, ça a amené, je pense, plusieurs dossiers. Oui, la sécurité dans le métro, mais après ça... Je sais pas, l'humanité, les gens en général, ça aussi, ça a été amené. Bref, on verra là, pour le deuxième homme aussi qui est recherché dans ce crime-là. Mais c'est certain que c'était une bonne nouvelle et pour Alexandre Champagne et pour son père. Dans sa publication, il dit que son père pleurait de joie, littéralement, là, au moment où il a annoncé ça. Donc, une bonne nouvelle, au moins là, une arrestation dans ce cas-ci.
Tout savoir en 24 minutes.
On a eu aussi droit à une grande présentation de la police provinciale de l'Ontario aujourd'hui, Mario, à Hawkesbury, où ils ont fait le bilan d'une opération hors du commun. Ils se sont déplacés jusqu'à Montréal pour venir arrêter des voleurs de chars.
Déplacés avec le poste de commandement écrit OPP dessus. En plein Montréal, dehors de leur province.
Ben voilà, dans le coin de Saint-Léonard, si je ne m'abuse, on avait et la police et de Montréal.
C'était sûr qu'il y avait une opération conjointe, qu'il allait avoir des gens qui allaient se faire mettre la main au collet. C'était certain. Là, il allait pas venir faire du tourisme ou faire de l'enquête générale. C'est parce qu'il venait faire une opération. Quand même pas mal de monde qu'on a ramassé.
Oui, on a beaucoup critiqué les policiers, Mario, puis le travail policier autour des vols de voitures. Mais il faut dire que depuis le sommet qui s'est tenu à Ottawa, on a vraiment du mouvement. 34 personnes.
Presque toutes les semaines, il y a quelque chose. Puis pas une petite arrestation, là, des opérations plutôt majeures.
Oui, 34 suspects là, qui se sont fait mettre la main au collet, Mario. Là, on visait 80 suspects, donc on comprend. Là, on n'a pas atteint même la cible encore.
Non,
de ce
mais
côté-là.
Le 34, par contre, il y en a 11 autres qui ne sont pas inclus dans le 34 parce qu'ils étaient déjà en prison. Ils se sont rendus compte au moment de leur recherche, OK, c'est des gens qui sont déjà en prison pour d'autres choses, mais qu'ils sont recherchés parce qu'ils ont aussi fait des vols de voitures. Puis il y en a quelques-uns aussi qui ont été mis sur des listes de gens recherchés. Donc, on n'avait pas d'adresse, on ne savait pas exactement où les trouver, mais ils sont notés comme recherchés. Ils font partie de ceux à arrêter éventuellement si on les retrouve.
On l'a reçu tout à l'heure, plus tôt dans cet épisode, l'inspecteur Shane du SPVM qui venait nous faire un peu un bilan de tout ça. Puis Mario, c'est une question que tu as posée, je crois, qui est vraiment intéressante dans ce dossier-là, l'âge. Des jeunes suspects qu'on a arrêtés. Là, je viens de dire jeunes suspects, je vends la mèche. On parle de la majorité, là, très vaste majorité des 34 ont en bas de 22 ans. C'est jeune là, pour rentrer dans un réseau criminalisé.
Dont certains ont dit qu'il y a aussi des mineurs dans le lot. Donc c'est une des choses qui frappe aujourd'hui, c'est une grosse, grosse, grosse frappe policière. Mais c'est incroyablement jeune les gens qu'on arrête. On parle du vol de véhicules, puis on se plaint du fléau, mais on devrait quasiment mettre là-dedans le fléau. C'est comme une nouvelle génération de criminels. On prépare comme le crime organisé de demain avec des jeunes dans la jeune vingtaine ou même des mineurs ou des jeunes de 17, 18, 19 ans.
Ouais.
C'est inquiétant.
Ouais, c'est inquiétant, surtout que ces jeunes-là ont vraiment un motif financier à aller faire ça. Là. On se comprendra que pour eux, c'est de la criminalité, mais pas nécessairement de la criminalité violente. Donc, on peut embarquer peut-être plus facilement des jeunes en leur promettant des sommes d'argent mirobolantes, Mario, là, ni plus ni moins.
Et on leur promettait jusqu'à tout récemment une confiance élevée de pas se faire pogner. Ben oui. Une confiance, une certitude quasi de garde, la police enquête pas ça et nous laisse faire. T'sais, si tu fais pas de grosses gaffes, là, si tu donnes pas à la police là, une occasion de t'arrêter, si tu fais pas de grosses gaffes, pas de trouble.
Ouais.
Et c'est un peu ça ce que M. Shane de la police de Montréal me disait, que l'opération conjointe avec l'Ontario, parce que c'est beaucoup des gens qui avaient fait des vols en Ontario et qui étaient à Montréal, puis ils se disaient, mais regarde, la police de l'Ontario ne nous trouvera pas ici. Alors, ils ont justement voulu prouver aux voleurs que même en changeant de province, tu te mets pas à l'abri, là, on va te ramasser où est-ce que t'es, t'as volé des autos à Toronto, tu restes à Montréal, on va venir te ramasser à Montréal. Donc, il y avait une volonté de montrer que là, on s'en occupe, là, depuis le sommet, ou je sais pas, peut-être parce qu'il y a aussi une opinion publique beaucoup plus en colère contre le laisser-aller sur le vol de véhicules. Ça fait réagir les élus qui ont mandaté les policiers pour mettre les bouchées doubles. Donc, on veut faire sentir que si t'es voleur de véhicules, tu peux plus le faire en toute impunité.
Ouais. Et là, on va devoir passer à la deuxième partie, si on veut aussi, de ce plan-là, Mario, parce que, OK, c'est bien beau d'arrêter le monde, mais là, on passe sur le judiciaire après. Puis c'est juste des tapes sur les doigts qui sont données à ces jeunes-là.
Le dernier procès là, qui a fait les nouvelles pour un vol de véhicule, c'est vendredi. C'est-tu vendredi passé ou c'est l'autre d'avant? Je ne sais plus si c'était une semaine ou deux semaines. Je viens mêler. C'était quoi?
Deux mois d'enquête. Puis
non, mais la peine, travaux communautaires.
Ouais, ça fait peur, Mario. Ça me dissuaderait de gagner des dizaines de milliers de dollars à voler des autos, là, ça, des travaux
communautaires.
Maudits.
Travaux communautaires, déjà qu'on a fait un dossier il y a quelques mois là, qui disait que les travaux communautaires, est-ce qu'ils font vraiment toujours? Est-ce que c'est vraiment géré avec toute la rigueur voulue? Puis les heures sont vraiment toutes faites? On n'est même pas sûr.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
C'est la consternation ce matin dans la communauté Cree de Waswanipi, alors qu'on a 4 personnes qui sont décédées, là, 4 jours de deuil qui ont été déclarés pour ces 4 membres de cette communauté qui sont décédés sur les 5, alors qu'on a...
Tout un accident de la route, là, face-à-face. Les images hier sont apparues vers l'heure du souper. Terrible. Un des véhicules, la fourgonnette, où il y avait 4 personnes, a carrément pris en feu, mais c'est un face-à-face de plein fouet.
Début d'après-midi, sur la route 113, hier, dans l'est de la ville de Chapais, on ignore pour l'instant qu'est-ce qui a causé tout ça, mais c'est vraiment, comme tu dis, un face-à-face, collision frontale, une camionnette qui aurait dévié de sa voie pour aller complètement dans l'autre voie et se faire emboutir. Donc, les 4 personnes qui étaient à l'intérieur, ces 4 membres de la communauté Cree, on avait un quadragénaire de l'autre côté aussi qui est décédé. Donc, tout le monde est impliqué.
Il n'y a pas de survivants, là.
Non. Tout le monde est impliqué et décédé. Là, on dit que c'est un pick-up qui est entré en camionnette. La camionnette, littéralement, là, tu sais, fait un tonneau puis un incendie là, à l'intérieur, Mario, qui a laissé aucune chance, malheureusement, aux occupants.
Je comprends que c'est une fourgonnette là, qui transporte des gens vers... qui avait une fonction qui transportait des gens vers l'hôpital.
Oui, exactement. C'est ce qu'on comprend. Et là, on a en plus, dans les théories, dans les thèses autour de ça, ça serait peut-être le climat, Mario, qui serait en cause. Parce qu'à ce moment-là, brume sèche sur place, un froid mordant, moins 14 degrés Celsius.
Il peut y avoir une petite couche de glace qui se forme.
Oui, des rafales de 40 km là, ou presque là, 40 km/h à ce moment-là, de vent aussi. Malheureusement, là, c'est toutes sortes de choses qui peuvent causer des accidents. Donc, ça reste à voir. Il y a une enquête du coroner qui est déclenchée dans ce dossier-là.
Économie.
Le ministre Miller de l'Immigration fédérale a beau se défendre, Mario, depuis le début de la semaine, en disant que les nouveaux visas qui sont réimposés aux travailleurs mexicains vont pas empêcher les travailleurs étrangers puis la main-d'œuvre de se rendre jusqu'à nous. Il n'y a pas une journée qui passe depuis cette annonce-là, ou presque, où on n'a pas un milieu qui dénonce le fait qu'on va manquer de travailleurs étrangers temporaires. C'était plutôt cette semaine, on en parlait, les pêcheries, hein, tout ce qui est transformation alimentaire, entre autres du crabe des neiges, de la crevette de Matane, etc. Là, ce sont les produits maraîchers, là, alors qu'on a vraiment tiré la sonnette d'alarme.
Le maraîcher, les fruits, les légumes, depuis plusieurs années, on ne trouve plus de main-d'œuvre locale. Plus, ou en tout cas, pas assez. On en trouve un peu, mais pas assez. Et on fonctionne largement autant les plantations, les semences ou plantations au printemps que les récoltes plus tard en saison. C'est largement l'œuvre de travailleurs étrangers temporaires, de Mexicains, de Guatémaltèques. Et là, c'est le problème des visas qui sont demandés aux Mexicains qui entrent en ligne de compte.
Oui, parce qu'on a beau dire que il y en a pas de problème, ils
mais
peuvent
il avait
passer.
Dit, quand il l'a annoncé, il avait dit qu'il y avait une exception pour l'agriculture. On a répété ça en ondes, nous, mais on a répété ça... C'était dans l'annonce qu'il allait avoir une exception pour l'agriculture.
Et pourtant, Mario, et pourtant, là, sur les quelques 4500 travailleurs étrangers mexicains qui sont attendus d'ici la mi-juin, on dit que c'est des centaines d'entre eux, des centaines qui ont de la difficulté à arriver, là, ont de la difficulté à trouver tout ça. Puis en plus, c'est que ça vient avec toutes sortes de problèmes sous-jacents. Hein, prendre une décision comme celle-là, Mario, ce qu'on s'en compte aussi en ce moment, c'est que là, t'annules plein de visas. Là, du côté des aéroporteurs mexicains, là, on parle à Aeromexico, par exemple, là, qui est l'équivalent de leur Air Canada, si on veut. C'est parce qu'il n'y a plus de demande pour aller au Canada.
Il annule des vols.
Il annule plein de vols, Mario. Puis au moment où tu as de moins en moins de vols en avril, en mai, c'est de plus en plus difficile pour ces gens-là de venir se rendre jusqu'ici. Là. Ça fait partie du problème.
Il y a beaucoup de questions. D'abord, le gouvernement canadien avait dit que ça n'affectera pas les travailleurs agricoles. Il le dit encore. Dit qu'est-ce qui s'est passé exactement? On peut se poser la question aussi, est-ce que c'est le Mexique qui nous fait suer, là? Parce que ça se peut. Le Mexique est très fâché de la décision du gouvernement Trudeau. Décision qui s'est prise d'ailleurs à la dernière minute, donc qui permet pas aux entreprises de s'organiser, de se retourner vers d'autres pays. Mais décision prise à la dernière minute, le Mexique est fâché. Est-ce que ça se peut que le Mexique dit, OK, ça leur prend papier pour sortir. Le papier, là, donnez-nous le temps, on va le faire quand on va le faire. Alors, il y a peut-être un peu de ça aussi, un mélange de ça aussi. Ce matin, je parlais avec la présidente là, à LCN, je parlais avec la présidente des maraîchers là, du Québec.
Catherine Lefebvre.
Catherine Lefebvre a dit qu'essentiellement, pour l'instant, c'est à peu près 40 % entre 40 % puis la moitié du nombre de travailleurs habituels qui sont en chemin pour venir, là, qui sont arrivés ou en chemin pour venir. Et qu'il en manquerait, d'après elle, plus que la moitié.
Ça pourrait faire exploser aussi les prix des légumes qui vont être cultivés ici.
Ça peut faire monter les prix. Ça peut faire carrément aussi gaspiller des récoltes. Là. Si tu mènes une récolte, si tu mènes une culture en terre, tu n'as pas les employés pour récolter. Souvent, ça dépend des affaires. Des affaires qui ont plus de conservation. Mais si tu arrives avec des choses comme des petits fruits, des fraises, c'est comme il y a X journées, une ou deux journées, là, c'est le temps de la récolte. Si tu laisses passer, tu risques de gaspiller le fruit. Là. Il va carrément être trop mûr. Donc, c'est un questionnement là, sur comment on va... Puis, qui est quand même annonciateur, parce qu'au-delà de ça, le fait d'annoncer à la dernière minute, puis il y a quand même un accord sur le fait qu'il y a la crise du logement, il faut réduire les seuils, mais le fait d'annoncer à la dernière minute qu'on restreint, qu'on ferme les valves pour le nombre de travailleurs étrangers temporaires, on dit par exemple dans la transformation alimentaire dans plusieurs domaines, on craint de manquer de main-d'œuvre.
Le monde...
C'est des images horribles, Mario, qui font le tour du monde en ce moment, qui parviennent de la banlieue de Moscou, alors qu'on a un attentat terroriste qui est survenu en pleine salle de concert et qui, selon les derniers chiffres, là, aurait coûté la vie à au moins 40 personnes. On parle de centaines de blessés. Vraiment, là, des images horribles là, où on voit, là, j'ai pu moi-même là, les regarder tout à l'heure.
Ah ouais, c'est un mélange de deux choses. Un tireur fou qui est rentré dans l'établissement, dans le théâtre.
Des tireurs fous.
Des tireurs.
On parle entre 2 et 5 hommes armés en tenue tactique, des armes automatiques, des explosifs aussi, qui sont entrés, Mario, dans cette salle de concert. Là,
tiré dans la foule.
Le Crocus City Hall. Tout d'abord, là, les premières images, on les voit arriver en bordure, tirer, là, ouvrir le feu sur les gardes de sécurité qui sont à l'entrée, ils les abattent presque tous, détruisent les portes là, à coups d'armes automatiques en tirant dans les vitres, ni plus ni moins, puis entrent à l'intérieur et se mettent à massacrer tout le monde. Ils ont lancé une grenade, on dit grenade ou grenade incendiaire.
Qui a allumé un feu, et là, le bâtiment s'est incendié au point où le toit, une partie du toit s'est écroulée sur
la salle
intérieure, sur la scène elle-même.
Oui, on se comprend, ça s'est effondré sur lui-même, le bâtiment qui est la proie des flammes. Et là, c'est des centaines de personnes qui ont réussi à être évacuées par les services incendies, qui ont dû ramper vers la sortie, Mario. Puis il y avait même des gens qu'on dit avoir sorti par le toit, là. Un moment où c'était en feu, ça s'effondrait. Il y a des gens qui ont dû être sortis, là, qui ont réussi à évacuer, on se comprend, en s'enfuyant vers des étages supérieurs. Et c'est qu'il y a 2 semaines, Mario, on se souviendra, c'est une nouvelle qu'on avait parlé ici à l'épisode. Le gouvernement américain avait mis en garde tous ses ressortissants qui pouvaient se trouver sur le territoire russe.
Le Canada avait emboîté le pas. Je pense que le Canada aussi avait mis un avertissement pour dire le Canada avertit s'il y a des citoyens. C'est parce que je me souviens, je m'étais fait de la réflexion. Je sais pas combien il reste de citoyens canadiens présentement en Russie, de pas en avoir 1 million. Là.
Non,
quelques-uns qui sont d'origine russe, qui ont de la parenté, à mon avis, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas de touristes canadiens qui se promènent en Russie cette année. Là.
Mais quand même, on avait senti le besoin d'émettre un avertissement dans lequel on disait attention, évitez les endroits publics si vous trouvez là-dedans. Il énumérait dans l'énumération les salles de concert, entre autres, en disant un attentat terroriste est imminent selon nos services de renseignement. Et là, jusqu'ici, on a l'Ukraine, évidemment, qui est sortie rapidement en disant on nie toute implication, c'est pas nous qui avons organisé cette attaque-là.
Mais au Kremlin, on vise l'Ukraine tout de suite.
Mais pour l'instant, ça semble.
Mais ils ont pas visé l'Ukraine. Ils ont dit si on découvrait que c'était l'Ukraine qui est derrière ça, notre vengeance serait terrible.
Oui, absolument. Et pour l'instant, eux ont nié tout ça. Mais il arrive quand même, dans les dernières années, plusieurs attentats terroristes sont survenus en Russie, Mario, qui n'avaient aucun rapport là, avec les Ukrainiens eux-mêmes. Là, on parlait, par exemple, là, de combattants tchétchènes en 2002 là, qui avaient fait une prise d'otage épouvantable. 912 personnes qui avaient été saisies à ce moment-là. Ça avait fini en bain de sang, ça aussi. Donc, vraiment, des images horribles, un point tel, on se comprend. La guerre fait rage, mais quand même, la Maison-Blanche là, présente ses condoléances. Puis offre de l'aide, on se comprend là, que c'est vraiment
ouais,
là, tout un attentat.
Les gens qui allaient voir un groupe de musique dans un théâtre, c'est pas des dirigeants politiques russes, là, eux, ont rien fait pour mériter ça. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.